Bonjour, bonsoir, émission spéciale hors-piste de l'atelier des médias RFI aujourd'hui. Hors-piste est un festival du Centre Georges Pompidou. Son édition du printemps 2016 est consacrée à la contestation et au combat citoyen. Un choix qui s'est avéré d'actualité à Paris. La place de la République est à quelques minutes d'ici. Pour l'atelier des médias spécial hors-piste, nous avons souhaité, avec l'équipe de la BPI, la Bibliothèque publique d'information, proposer une rencontre avec un militant des libertés sur Internet. Il est à la fois juriste, blogueur, bibliothécaire et activiste. Notre invité aujourd'hui est Lionel Morel, alias Calimac sur Twitter. Je suis Ziad Malouf, vous écoutez l'atelier des médias RFI. Aux manettes, c'est Simon De Creuse et Lionel. En coulisses, c'est Camille Deloche, Manon Mella et Mathias Virilli. Restez avec nous.
L'atelier des médias, la web émission participative. RFI. Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Y'all wanna know why it don't stop, y'all wanna know why it don't flop. Let me tell you, P-E-O-Y came from the bottom of the block. When I was born, it was sworn I was never gonna be shit. Had to pull the opposite of a bitch, had to get my ride on. Eyes on the prize, Sean knew I had to get these chips. Had to make moves like Elijah Wan. Started out selling dimes and nicks. Graduated to a brick, no exaggeration. My infatuation with the strip. Legendary like a schoolboy, crush a million in the every chick.
Depuis une grosse vingtaine d'années, une couche numérique est en train de se superposer à notre monde physique et à ses reproductions analogiques. Ce qui pouvait être perçu originellement comme un simple outil ou comme une innovation technologique est aussi un nouveau territoire. Un territoire où le partage, la circulation d'informations sont plus aisés que jamais. Peut-on, doit-on y imposer les règles d'un monde plus ancien concernant par exemple le droit d'auteur ou de reproduction ? À cette question, les militants des libertés numériques répondent un non catégorique. Elles et ils tentent de sensibiliser les décideurs, les populations au danger d'un contrôle trop strict ou d'une application bornée des usages nés dans le monde d'avant. Militer pour les libertés numériques est un sacerdoce, une tâche éminemment ingrate, car face à ce que les défenseurs des libertés perçoivent comme des évidences ou des périls immenses, l'opinion publique et les pouvoirs renvoient au mieux de l'incompréhension, au pire une opposition massive. Nous allons clarifier ces enjeux avec notre invité. Il sera question de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, de biens et de savoir commun. Bonjour Lionel Morel.
Bonjour.
Tu es juriste, bibliothécaire à Nanterre. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom de ta bibliothèque. La BDIC. Tu es blogueur. Ton site s'appelle Silex, carnet de veille et de réflexion d'un juriste et bibliothécaire. Tu es également militant au sein de la Quadrature du Net. Tu es membre du conseil d'orientation stratégique de cette organisation qui lutte pour les libertés numériques. La Quadrature qui a été très active, notamment dans le combat de l'état d'urgence récemment ou la loi renseignement. On l'a vu également, la Quadrature tenir un stand, je crois, à Nuit Debout pour encourager les citoyens à reprendre le contrôle de leurs données numériques. Est-ce que tu souhaites tout d'abord apporter des précisions sur tout ce que je viens de dire ?
Oui, peut-être juste apporter une précision. À la Quadrature du Net, on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on défendait exactement. Et on s'est mis d'accord qu'on ne défendait pas les libertés numériques, parce qu'en fait, on considère que la liberté, elle n'est pas d'une nature différente selon qu'on est dans l'environnement numérique et dans l'environnement physique. On a aussi dit qu'on n'était pas une association de défense des libertés dans l'environnement numérique, parce que de plus en plus, en fait, les deux environnements se chevauchent. Il y a beaucoup d'enjeux qui, en fait, peuvent plus se dissocier entre ce qui se passe sur la toile et ce qui se passe dans le monde physique.
Par exemple, Adrienne Charmé-Alix récemment était venue parler de l'état d'urgence et de la perquisition, de la manière dont les services policiers captaient les données des personnes où ils faisaient des perquisitions. Et ça, c'est vraiment le monde physique qui rencontre le monde numérique.
Tout à fait. Et puis l'Internet des objets aussi, qui brouille complètement la frontière, nos smartphones par exemple, qui nous traquent en permanence. Donc on s'est mis d'accord pour dire qu'on était une association de défense des libertés à l'âge du numérique, en prenant en compte en fait ce que le numérique change profondément pour la question de la liberté.
Merci pour cette précision. Est-ce que tu as des précisions aussi sur ton parcours ? Est-ce que j'ai bien résumé ou...
Non, c'est tout à fait ça. En fait, moi, j'y suis venu vraiment par la question de l'accès à l'information à travers mon métier de bibliothécaire et mon activité de blogueur qui m'a fait goûter à ce qu'était la liberté d'expression sur Internet.
Justement, comment est-ce qu'on concilie donc un parcours et une profession de bibliothécaire avec un intérêt pour le numérique, avec une activité de blogueur, une activité de militant ? Comment est-ce que c'est conciliable ?
Rapidement, moi, en fait, c'est vraiment dans les bibliothèques, en fait, quand j'ai commencé à avoir cette fonction, c'est là où j'ai découvert, en fait, à la fois l'énorme potentiel de diffusion des informations et de la connaissance que recelait le numérique. Moi, j'ai travaillé notamment sur des questions de numérisation du patrimoine et de diffusion. Ça m'a bien fait comprendre ça. Et ça m'a aussi fait éprouver à quel point aussi les limitations imposées par certaines législations, et moi en particulier les règles du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, pouvaient contraindre en fait la diffusion des libertés et restreindre le potentiel qu'on avait dans le numérique. Par exemple, actuellement, la durée du droit d'auteur, c'est 70 ans après la mort du créateur, ce qui, avec la durée de vie moyenne, nous amène à des durées de plus de 150 ans, ce qui veut dire que le patrimoine est bloqué en diffusion en ligne sur des choses qui nous amènent au début du XXe siècle, en fait. Alors qu'on se rend compte que dans ces eaux-là, il n'y a que 5% ou 10% des ouvrages qui sont encore exploités commercialement. Donc du coup, il y a une justification légale à l'interdiction de la diffusion du patrimoine qui ne recoupe pas vraiment la réalité économique. Et ça m'avait beaucoup frappé. Ou par exemple, on se rend compte aussi que si vous voulez numériser un journal, vous êtes censé demander l'autorisation à tous les auteurs d'articles, tous les auteurs de photos, tout ce qui apparaît et qui est protégeable. Vous êtes obligé d'avoir demandé une autorisation individuelle. Ce qui fait que pour un seul numéro exemplaire de journal, il faudrait demander en fait des centaines d'autorisations.
Donc tu as fait ce constat, tu as choisi de militer. Pourquoi tu as choisi de t'engager dans ce combat, qui est un combat qui peut paraître extrêmement technique à la plupart des personnes ?
Avant de m'engager, moi, j'ai fait l'expérience, justement, à travers l'activité de blogueur, de ce que pouvait vraiment apporter le numérique en termes de diffusion des connaissances, des idées et de connexion, en fait, des combats militants.
C'est-à-dire
Moi, en fait, je me suis lancé en 2009. Très rapidement, je me suis rendu compte que tout seul, avec un pauvre site, j'avais la capacité de toucher quand même beaucoup de monde.
Ton site qui s'appelle Silex, il s'appelait déjà comme ça.
Oui,
à l'époque.
Oui, c'est comme ça que je l'avais.
Et ça veut dire, donc, c'est s.i. Lex, j'imagine que c'est la loi.
C'est ça, ça voulait dire science de l'information et droit. Je voulais croiser le point de vue d'un juriste et d'un bibliothécaire, ce qui n'est pas si courant, et essayer d'apporter ce point de vue particulier sur les questions numériques. Et en fait, au début, je parlais beaucoup de questions de bibliothèque. En fait, j'étais dans ma communauté, et au fur et à mesure du temps, j'ai élargi les sujets jusqu'à rencontrer d'autres militants et d'autres personnes qui intervenaient sur les questions des libertés numériques. Et c'est là où j'ai rencontré les gens de la Quadrature du Net, qui faisaient un boulot extraordinaire, en fait. Hein. Et ce qui a coïncidé, le gros déclencheur, ça a été la loi Hadopi, en fait. Là, pour moi, ça a été vraiment un très, très gros déclic, parce que face un peu à l'absurdité des solutions qu'on proposait pour lutter contre ce qu'on appelle le piratage et la disproportion des moyens qui étaient mis en œuvre face à ce que je considérais comme étant les vraies questions, ça m'a vraiment donné envie de militer.
Les solutions qui étaient proposées, c'était de traquer les personnes qui utilisent le pair-à-pair pour télécharger des films et potentiellement leur couper leur accès à Internet, c'est ça.
En 2009, quand la loi est passée, l'idée, c'était de les avertir trois fois avec le dispositif qu'on appelle riposte graduée et, au bout du compte, de faire une coupure de l'accès à Internet. Ce qui, finalement, n'a jamais été mis en œuvre, et notamment parce que la Quadrature avait poussé un recours au Conseil constitutionnel qui a énoncé que l'accès à Internet était une liberté fondamentale et qu'on ne pouvait pas la couper sans passer devant un juge. Et donc, du coup, au final, il n'y a jamais eu de cette coupure qui a été mise en œuvre.
Si on se promène sur ton blog, tu as écrit des centaines de billets. Les derniers, par exemple, tu as parlé, pour donner une idée aux personnes qui nous écoutent, tu as parlé de Retro News. Le billet d'avant, si ça t'inspire plus, c'était sur le blockchain et le Creative Commons. Donc, encore une fois, Retro News, c'est un projet, mais le blockchain et le Creative Commons sont des concepts qui peuvent paraître un peu abstraits ou un peu austères, mais qui sont des concepts extrêmement importants, extrêmement intéressants. Tu peux peut-être expliciter.
Oui. Alors, j'ai beaucoup parlé dans mes billets de licences libres, notamment les licences Creative Commons. C'est quelque chose que je considère de très, très important parce qu'en fait, ça donne le pouvoir à celui qui crée de donner des libertés au lieu d'imposer des restrictions.
En français, ça pourrait être les communs créatifs.
C'est ça. Donc, de mettre en partage ses créations sans abandonner son droit d'auteur, parce qu'on peut continuer à contrôler dans une certaine mesure la diffusion en continuant à poser des conditions.
c'est un contrat. Voilà. C'est établi
un contrat direct entre l'auteur et son public pour lui permettre d'utiliser ses œuvres et les laisser circuler sur Internet sans complètement abandonner son droit d'auteur, parce qu'il y a des compromis possibles à trouver et des équilibres à trouver. Et voilà. Et blockchain, c'est très très intéressant. C'est le protocole qui sert à faire tourner le Bitcoin, la monnaie virtuelle, qui a maintenant quelques années, et qui offre à la fois des perspectives assez parfois effrayantes dans ce que ça peut permettre, mais aussi des espoirs très encourageants de redécentralisation de l'Internet, c'est-à-dire la possibilité de faire des choses sans passer par des plateformes centralisées qui sont en général les vecteurs des plus grands problèmes qu'on a aujourd'hui sur Internet.
Alors est-ce que tu pourrais expliquer donc en quoi c'est intéressant quelque chose comme blockchain ? Que ça veut dire.
Alors très rapidement, blockchain, l'application qu'on lui connaît le plus, c'est d'avoir permis de créer une monnaie virtuelle, le Bitcoin, qui permet en fait de régler des échanges monétaires sans faire intervenir une banque centrale ou tout autre organisme qui en fait aurait une main sur la gouvernance de l'échange.
Où c'est, le fichier central de cette ça. Monnaie est partagé par tout le monde et sécurisé.
C'est un registre distribué, une base de données distribuée. Chacun conserve une copie de la base et il permet d'authentifier l'échange en disant eh bien toi, tu dois tant d'argent à un tel et tu as donné tant de bitcoin à un tel. Et le miracle, c'est d'avoir réussi à faire ça sans passer par une autorité centrale. Et en fait, maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le bitcoin pourrait avoir bien d'autres applications et gérer beaucoup de choses, et notamment par exemple gérer les règlements des questions de droit et de propriété intellectuelle sans forcément par exemple avoir à passer par un organisme comme la SACEM ou à passer par une plateforme centralisée comme YouTube qui gère ces questions de droit. Et ça peut donner un gros pouvoir aux artistes pour reprendre en main la diffusion de leurs œuvres, et aussi aux internautes pour avoir accès à des œuvres sans être obligé de passer par des plateformes centralisées. Et à mon avis, ça, c'est peut-être une révolution à venir qu'on n'a pas encore trop anticipée, mais qui pourrait avoir des effets très très importants.
C'est pas trop abstrait, ce genre de choses, pour passer le cap des techniciens, des gens qui se passionnent pour ces sujets. Même le Creative Commons, par exemple, alors que c'est quelque chose de très simple, très ludique. Quand on s'y intéresse, on comprend très très vite. Même ça, ça a du mal à passer le cap du grand public, le cap de l'intérêt général, etc.
C'est une vraie question, ça, en fait. Hein. C'est vrai que c'est des sujets qui sont souvent compliqués, hein, les questions numériques. Quand on y rajoute une couche légale, parce qu'il y a souvent une grande composante juridique hein, dans toutes ces questions, ça crée un coût d'entrée supplémentaire. Mais d'un autre côté, par exemple, les Creative Commons, au dernier recensement, il y a quand même 1 milliard d'œuvres qui ont été libérées par des individus qui ne sont pas tous des juristes et qui ne sont pas tous des spécialistes du numérique, en 10 ans d'existence. Donc il y a quand même un taux de pénétration qui commence à devenir non négligeable. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme travail de pédagogie à faire et d'explication. Et c'est une des choses qu'on essaie de faire le plus à la Quadrature du Net, c'est de vulgariser ces enjeux et de les faire passer le plus largement possible.
Dans ton blog, tu proposes une assez longue présentation de toi, de ce que tu fais. Tu utilises des mots-clés pour signifier les choses qui t'intéressent. Je veux bien qu'on les passe en revue, que tu les détailles. Donc, propriété intellectuelle, droit d'auteur, droit de l'Internet. Donc, ça, ce sont des grands enjeux du monde actuel pour toi.
En tout cas, c'est le cœur, moi, de ce sur quoi je me suis spécialisé dans l'énorme champ des questions numériques. Mais c'est pas forcément, d'ailleurs... Pendant longtemps, ça a été le premier point central qui a cristallisé les oppositions sur les questions numériques, la question de la propriété intellectuelle. Maintenant, en fait, le champ s'est énormément diversifié. Il y a la question de la protection de la vie privée, des données personnelles, la question d'enjeux comme la neutralité du net, la question de la surveillance, beaucoup d'autres, la question de la liberté d'expression. Donc le champ est beaucoup plus large, en fait.
Et comment passer les enjeux du débat sur la propriété intellectuelle ? Parce que c'est un débat où une des particularités, c'est peut-être que tout le monde est assez sincère, même les gens qui sont très très opposés. C'est-à-dire que d'un côté, il y en a qui vont dire que la création a besoin d'être protégée pour permettre aux auteurs de vivre. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont dire « mais si vous protégez trop ou mal la création, eh bien vous pouvez la tuer ». Comment est-ce qu'on peut donc expliquer ça au plus grand nombre et convaincre de changements, sachant que globalement les changements vont presque tous dans le mauvais sens, enfin jusqu'à maintenant on protège de plus en plus et on a du mal à voir les choses se libérer.
Alors c'est un débat qui a été beaucoup caricaturé, en fait. Je pense que ça a fait beaucoup de mal au débat public sur ces questions, où on a opposé des gens, en fait, que nous on représenterait, qui seraient pour la gratuité totale et la liberté totale sans aucun contrôle, ou l'abolition du droit d'auteur, par exemple, qu'on nous a beaucoup accusé de faire ça, Et d'un autre côté, on caricature aussi souvent les tenants de la propriété intellectuelle. Ça peut être par exemple les sociétés de gestion collective comme la SACEM, qui sont souvent assez brocardées. Et entre les deux, il y a tout l'énorme champ des auteurs, en fait, parce que c'est quand même la question fondamentale. Hein, c'est comment faire en sorte de soutenir la création à l'âge du numérique, où on assiste à un phénomène d'explosion du nombre de personnes qui ont accès aux possibilités de créer et de diffuser leurs œuvres, avec par ailleurs un phénomène de concentration des rémunérations qui n'a jamais été aussi fort en fait. Et Internet, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, a encore concentré les rémunérations sur un tout petit nombre en fait, de créateurs qui peuvent en vivre. Au Salon du Livre, par exemple, la dernière fois, cette année, il y a eu une étude qui a montré qu'en fait, il n'y a que 5% des auteurs de livres qui peuvent vivre de leur création sans avoir un métier annexe à côté. Ce qui, pour moi, je trouve, est assez effrayant, quoi, parce que qu'est-ce qu'on dirait d'un système de santé qui soignerait seulement 5% de ses patients, ou d'un système scolaire qui laisserait 95% d'analphabètes? On dirait que le système ne marche plus du tout, en fait. Et nous, par exemple, on n'a jamais, par exemple, dit qu'on voulait abolir le droit d'auteur. Nous, on veut l'adapter pour que la question du partage devienne possible sur Internet et tout ce que Internet le favorise puisse devenir légal, en fait. Mais on a aussi toujours poussé des mesures de financement de la création complémentaires pour permettre aux créateurs de toucher des rémunérations. Donc, quand on arrive à faire passer ce message-là, je pense qu'on peut partir sur une base de discussion. Mais c'est très, très difficile, en fait, d'avoir une vision non caricaturale, en fait, de ces enjeux.
Et comment est-ce qu'on peut le faire passer? Comment est-ce que les choses peuvent évoluer, sachant que une des particularités aussi de la création, c'est qu'elle est souvent très bien organisée en société, dont l'enjeu est de défendre les droits et de défendre le monde actuel, parce que c'est l'essence de ce que sont ces sociétés, d'auteurs, etc., de redistribution.
Je pense que les choses, à mon avis, sur ce sujet, bon là, elles arrivent à un point de blocage qui est très très fort. Hein. On l'a vu ces dernières années. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode de, par exemple, il y a eu un rapport qui a été fait qui s'appelait le rapport Lescure. Pierre Lescure a fait 80 propositions.
Pour lequel tu as été auditionné.
Où on avait été auditionné, mais tout à fait. Et en fait, il n'y a quasiment aucune de ces 80 propositions qui seront incarnées dans la loi. Quoi. Et au niveau européen, il y a le même blocage, en fait. Il y a une refonte de la directive sur le droit d'auteur qui est très très complexe, très bloqué, et la Commission européenne en fait va lancer des tout petits chantiers par rapport. Donc il y a un énorme blocage, et moi je pense que le vrai déclic, ce sera le jour où les auteurs eux-mêmes en fait s'empareront de la question.
Et il y avait aussi un enjeu sur la définition positive du domaine public, et là aussi il y a eu un recul. Alors là, encore une fois, on est entre l'informatique et le juridique, ça paraît technique, mais c'est quand même incroyable.
En fait, normalement, il y a un principe très fort dans la propriété intellectuelle, c'est pas une propriété similaire à la propriété physique. C'est-à-dire que si je suis propriétaire d'une montre, je serai propriétaire aussi de montre, ad vitam aeternam, je peux transmettre ma montre à mes descendants, etc. La propriété intellectuelle, elle s'arrête à un moment donné, et après, l'œuvre entre dans ce qu'on appelle le domaine public, et là, elle devient librement réutilisable pour tout un tas d'usages, notamment la copie, la diffusion et la commercialisation aussi. L'énorme paradoxe, c'est que le droit d'auteur, il est défini, mais le domaine public, il n'apparaît pas dans la loi, en fait. Ce qui le rend invisible et très difficile à défendre. Et notamment de toutes les tentatives de réappropriation qu'on constate sur les œuvres, notamment sous forme numérique. Et ce qu'on a essayé de pousser, notamment dans la loi numérique, c'est la loi d'Axel Lemaire, qui va passer au Sénat cette semaine, c'était de consacrer en fait positivement le domaine public en disant voilà, il existe et quand il y a des atteintes, on pourra le défendre, y compris en justice. Et on proposait que des associations puissent justement agir en justice. Et finalement, le gouvernement a reculé alors qu'il y a eu plusieurs rapports qui insistaient sur la nécessité de le faire, sur la légitimité. Et finalement, le gouvernement a reculé sur cette question après une très forte poussée de lobby des titulaires de droits qui se sont sentis menacés par la proposition. Ça, je dois avouer que ça a été une des très très grosses désillusions politiques de ces derniers mois, quand même, de voir que même sur une mesure comme ça de bon sens, on n'arrive pas à faire bouger les lignes au niveau législatif.
Et justement, comment on ressent cette désillusion ?
Fatalement, on finit par passer d'un combat sectoriel sur des thèmes à une remise en cause du fonctionnement de notre démocratie, en fait. Parce que pour l'avoir vu de l'intérieur, hein, pour avoir vu un petit peu les arcanes de ce genre de décision, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a un énorme déséquilibre des influences, que dans nos institutions de la Ve République, le vrai pouvoir est concentré vraiment au sommet sur quelques décideurs, et que en fait, tout le travail qu'on peut faire en amont auprès des instances consultatives et tout le travail qu'on peut faire ensuite au niveau des parlementaires peut être ruiné en fait en quelques secondes par une influence qui aura plus de poids que tout ce travail de construction. Et là, je dois avouer que ça interroge très profondément sur le fonctionnement de la démocratie, la place en fait qu'on donne à l'implication des citoyens.
On marque une courte pause dans l'atelier. On se retrouve dans un instant. Nous serons toujours au Centre Georges Pompidou avec notre invité Lionel Morel. Vous écoutez l'atelier des médias. Nous sommes cette semaine au Centre Georges Pompidou avec le bibliothécaire, blogueur, activiste. T'es quoi d'autre, Lionel ?
Juriste un petit peu.
Juriste aussi. Lionel Morel, restez avec nous.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Toujours sur ton site, tu dis de toi que tu traques et essaies de faire sauter le DRM mental qui empêche de penser le droit autrement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Le DRM, donc, c'est les droits de reproduction mécanique.
Le DRM, en fait, c'est des verrous techniques qui sont implémentés dans les fichiers pour empêcher la copie. Et un jour, j'avais fait cette métaphore en disant que dans le droit, il y a aussi ce que j'appelle moi un DRM mental, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, on a beaucoup de mal à inventer des règles juridiques nouvelles, notamment pour s'adapter à l'environnement numérique. Et c'est tout à fait logique, hein, parce que le droit, il n'a pas qu'une fonction, je dirais, de régulation des comportements, il a une fonction de façonnage des imaginaires aussi. Et on intègre beaucoup de choses. Hein. Par exemple, on est dans des sociétés qui sont très imprégnées du droit de propriété et qui font qu'on a beaucoup de mal à imaginer qu'une chose puisse être régulée sans distribution de droits de propriété. Et c'est pour ça aussi, nous, qu'on a voulu agir sur le domaine public, parce que c'était une manière d'ancrer dans l'imaginaire aussi qu'il y avait des domaines où le droit de propriété cessait et qu'il fallait le réguler autrement. Donc moi, ce que j'ai essayé de questionner, y compris en moi d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai une formation de juriste et je peux pas complètement me laver parfois de cette formation, et ça me formate aussi pas mal dans ma manière d'aborder les choses. Donc j'essaie de penser en dehors des cases, et dans mon blog j'essaie parfois de penser un peu à la limite, voilà, de faire des exercices mentaux pour pas subir ce DRM mental.
Il y a un juriste américain qui s'appelle Lawrence Lessig, que tu connais, qui dit « code is law », le code, c'est la loi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? C'est une expression que j'ai beaucoup entendue, que j'ai parfois du mal à comprendre toutes les implications. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette expression « code is law », le code, c'est la loi ?
Alors, Lawrence Lessig, c'est une
des donc personnes que j'admire. C'est le penseur du Creative Commons. Hein,
c'est lui qui a créé, contribué à cette licence. C'est un penseur très profond des questions numériques. Quand il veut dire « code is law », en fait, ce qu'il veut dire, c'est que l'infrastructure réelle qui régule le plus les comportements sur Internet, elle n'est pas dans les règles juridiques, dans les lois que les législateurs empilent, elle est dans les protocoles, en fait, qui permettent les échanges. Et c'est quelqu'un qui a vu l'émergence d'Internet et du web aux États-Unis et qui a constaté que les protocoles de base d'Internet, notamment le protocole TCP/IP, voilà, qui permet la diffusion distribuée d'informations, là aussi sans contrôle central, c'est en fait la constitution d'Internet.
Alors le protocole TCP/IP, pour ceux qui ne suivent pas, c'est le fait de découper les informations par paquet et de les recevoir à l'autre bout de la chaîne, enfin à l'autre bout du fil, en gros, par paquet également. Oui. Et c'est ce qui permet donc de communiquer sur Internet facilement, de ne pas envoyer les gros fichiers en un seul morceau, mais par petits morceaux. Et c'est aussi ce qui implique un enjeu important d'Internet, qui est la neutralité, c'est-à-dire que le réseau doit être bête, il ne doit pas savoir ce qui passe en lui et il ne doit pas privilégier des paquets par rapport à d'autres.
Tout à fait. Et ça, c'est cette règle qui dit que les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès Internet ne doivent pas intervenir dans la transmission des informations sur le réseau pour en favoriser certaines ou non, ce qui est un enjeu fondamental en fait. C'est parce que ça permet de garantir qu'Internet reste un et qu'on a tous accès au même Internet quand on s'y connecte. Et qu'on a tous un droit égal à diffuser les informations sur Internet en ayant à peu près la certitude qu'elles seront acheminées de manière neutre par le réseau. Donc c'est un enjeu fondamental pour la liberté d'expression, par exemple. Et lui, ce que dit Lawrence Lessig, c'est qu'en fait, c'est ce protocole technique en fait qui constitue la loi fondamentale du réseau et qui a pris le pas sur les règles juridiques. Et il avertit en disant, si vous permettez que quelqu'un change le protocole technique, en fait, c'est là où vous allez toucher le plus profondément aux libertés sur Internet. C'est comme s'il y avait un voile juridique qui nous empêchait de voir parfois le vrai soubassement technique qui est le plus important sur Internet.
Tu es cofondateur, Lionel, du collectif Savoir Commun. Qu'est-ce que c'est, ça, le collectif Savoir Commun ? J'ai repéré donc une petite présentation de ce collectif qui dit que prendre au sérieux les changements apportés par le numérique suppose de s'intéresser à des mutations complexes, c'est un peu ce qu'on vient de dire, hein, pour lesquelles on ne saurait maintenir des approches simplistes de défense d'une profession, d'un secteur, d'une branche ou encore une opposition frontale public-privé. Qu'est-ce que c'est, le collectif Savoir Commun ?
Alors c'est un autre groupe auquel j'ai participé à la création, qui s'intéresse au commun de la connaissance, c'est-à-dire au bien commun, c'est-à-dire justement à tout un courant de pensée qui essaye de penser les choses davantage à travers les droits d'usage que l'appropriation exclusive.
Les communs, ça vient de, donc je ne sais pas si c'est le Moyen-Âge, mais en gros ça vient de temps immémoriel où il y avait des pâturages ou des choses qui étaient des communs, qui étaient partagés par tout le monde, etc. C'est ça ?
C'est un très ancien mode de gestion des ressources qui existe effectivement depuis le Moyen-Âge et sûrement depuis bien plus longtemps, où en fait on avait des droits de pâturage, de glanage sur les ressources qui étaient garanties aux individus et les propriétaires n'avaient pas le droit de les supprimer, notamment en mettant des clôtures, ce qu'on appelle des enclosures, pour supprimer ces droits dont les populations bénéficiaient. Et ce qu'il y a de très intéressant, en fait, c'est qu'il y a eu toute une redécouverte de cette pensée avec le numérique, parce qu'en fait, Internet, au moins à ses origines, avait la nature d'un bien commun, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui possède Internet ou qui peut dire « je suis propriétaire d'Internet dans son entièreté ». On peut être propriétaire de certains bouts, de câbles, de choses comme ça, mais personne ne possède Internet dans son entièreté, et on a tous des droits d'usage, en fait, sur Internet qui nous sont garantis par le réseau. Donc, voilà, il y a beaucoup d'autres types de communs. Les œuvres qu'on libère sous licence Creative Commons deviennent, en fait, des communs, au sens où on donne des droits d'usage, et ça, Wikipédia aussi est souvent ce qu'on cite comme étant un des plus beaux exemples de communs numériques aujourd'hui.
Et en fait, derrière cette idée, il y a le fait qu'on peut trouver des solutions sur ce monde en construction, ce monde où même tu t'interroges sur les processus démocratiques et des choses comme ça, on peut trouver des solutions dans des pratiques du passé où on n'avait pas superposé des tonnes et des tonnes de couches de lois, de règles, etc. au monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ça en gros l'idée derrière les communs et le savoir commun.
Il y a une dimension politique aussi dans les communs, en fait, parce que ça nous vient de l'enseignement d'une économiste qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009 pour ses travaux sur les communs, et qui a montré qu'en fait que c'était le fait de partager une ressource pouvait être un moyen très efficace de la gérer, à condition que ce soit fait dans une gouvernance ouverte qui permette la participation de toutes les parties prenantes à la gestion dans un cadre démocratique. Et elle a documenté en fait des tas d'exemples où elle a montré que quand ça marche, il y a ces structures ouvertes de gouvernance qui sont mises en place. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est d'essayer d'appliquer ces principes politiques, en fait, de coopération, de collaboration, d'horizontalité, parce que c'est ça, en fait, qui garantit la gestion efficace des ressources, et notamment sur Internet. Wikipédia, encore, est un très bon exemple de communauté qui s'est organisée avec des règles, sans centralisation, pour gérer une ressource de manière partagée. Et nous, dans Savoir Commun, on a essayé de créer un collectif qui se gère lui-même comme un commun. C'est-à-dire qu'on gère les choses par la discussion, par le consensus, il n'y a aucune structure centralisée, et on gère les choses par le débat.
Et ça marche, du coup ?
Ça demande beaucoup de temps, d'efforts, c'est très chronophage et parfois très épuisant, mais franchement, pour y avoir goûté, je reviendrai absolument jamais en arrière sur le cadre de l'action, parce que c'est tellement plus riche, tellement plus spontané et libre que voilà, qu'une fois qu'on y a goûté, c'est dur de revenir en arrière.
On va conclure sur le dossier un peu Internet. Les enjeux essentiels pour l'avenir du partage, de la culture, du savoir, qu'est-ce que c'est les grandes lignes des choses qu'il faut garder en tête, qu'il faut défendre absolument pour co-construire un monde meilleur ?
Hélas, on a manqué des grosses occasions de transformer les choses par la voie législative. Et aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, la situation s'est énormément figée, à tel point que j'en arrive sincèrement à me demander si ça reste encore, ça vaut encore la peine de militer au niveau des décideurs pour faire changer les choses, parce que le blocage est tel que voilà, on arrive dans une sorte d'hiver là qui, à mon avis, va durer pour longtemps.
Et l'idée, c'est peut-être de réfléchir en dehors de la boîte, quoi. C'est-à-dire qu'en militant auprès des décideurs, on est peut-être en train de reproduire un schéma de pensée, de fonctionnement qui marche pas, quoi.
Ben oui, tout à fait, parce que c'est reproduire l'idée que c'est en allant vers la centralisation et vers le décideur ultime qu'on pourra changer la solution. Et je pense qu'il faut absolument reprendre conscience qu'il y a un énorme pouvoir qui appartient aux individus et aux communautés de libérer elles-mêmes les choses à la racine, notamment sur les questions de propriété intellectuelle. On est dans cette salle, j'imagine, il y en a beaucoup de gens qui sont créateurs de contenu, et grâce à des outils comme les licences libres, on a tous la possibilité de contribuer à ouvrir les choses, à donner des droits d'usage, à créer des ressources partagées. Et dans la période qui vient, en fait, je pense que c'est ça qui va être l'enjeu, c'est de, par le dialogue, par la construction, par la rencontre des communautés, arriver, voilà, à libérer les choses par la base, plus qu'essayer finalement de changer les choses par le haut, parce qu'hélas, et en parallèle de ça, il y a un très très gros travail à faire sur nos structures démocratiques pour sortir de situations de blocage.
Donc il faut penser en dehors de la boîte, peut-être, essayer de militer ou de faire les choses différemment, mais qu'est-ce que c'est les grands enjeux pour toi d'un avenir meilleur pour la culture, de partage, etc., en dehors du fait qu'il faut penser différemment, faire les choses différemment. Est-ce qu'il y a des cibles, des choses sur lesquelles il faut être vent debout, il faut les défendre absolument ou combattre ?
Alors, si on élargit au-delà des questions de partage, il y a plusieurs très très gros enjeux là qui sont devant nous. Il y a la question des données personnelles, par exemple. Ça, c'est vraiment crucial pour l'avenir d'Internet et la protection de la vie privée, surtout dans un contexte en fait de dérive sécuritaire auquel on assiste depuis maintenant 3-4 ans. Et même
en
plus, mais en particulier en France, où il y a vraiment une agression législative là qui est dramatique sur l'abandon de nos libertés, le développement des moyens de surveillance de masse, la criminalisation de tout un tas d'actions qui paraissaient auparavant assez naturelles, le développement du blocage des sites internet sans juge. Voilà, il y a toute une litanie de choses qui sont vraiment très très inquiétantes.
Une attaque aussi en règle contre la séparation des pouvoirs, tout simplement, parce que le pouvoir du juge est laminer systématiquement.
Et là aussi, les moyens de protection sont très individuels. C'est-à-dire que, à notre échelle, je parlais de ce qu'on a essayé de faire dans la nuit debout à la Quadrature du Net. À notre échelle, il y a des tas de moyens, en fait, de sécuriser nos moyens de communication, de faire du chiffrement.
On va revenir sur
nuit debout. D'héberger nous-mêmes nos données qui permettent quand même de reprendre la main et un contrôle sur ce qu'on produit et de pas le laisser soit à des plateformes centralisées, soit de trop faciliter la chose à des gouvernements qui mettent en place des moyens de surveillance massive. Donc ça, c'est un très très gros enjeu. Surveillance de données personnelles. L'enjeu de la neutralité du net, il reste important, mais il est un peu compromis au niveau européen aussi. Hélas, il y a eu des directives qui sont passées qui n'ont pas consacré complètement ce principe-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire au niveau individuel et beaucoup d'éducation à faire pour faire bouger les choses.
On va donc revenir sur le thème du festival qui nous rassemble, qui s'appelle Hors Piste. Son thème, c'est l'art de la révolte. Le programme a été choisi bien avant la naissance du mouvement Nuit Debout, mais ça tombe bien. Quel regard tu portes sur donc ce mouvement Nuit Debout qui, par essence, répond un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est extrêmement décentralisé, avec ce que ça a comme qualité, comme défaut aussi, défaut en termes de compréhensibilité, je ne sais pas si ça se dit, mais il est difficile à comprendre aussi pour certains, parce qu'on entend toutes sortes de choses venant de toutes parts. Tu as participé.
Moi, je participe au mouvement Nuit Debout à deux titres, en fait. Pour la Quadrature du Net a très rapidement, en fait, décidé d'être présente sur la place de la République pour faire des ateliers d'autodéfense numérique, notamment pour sensibiliser les participants à l'urgence absolue de protéger leur communication, parce que dans un contexte comme ça, il faut pas se leurrer, il y a des déploiements de moyens d'écoute, y compris physiques, ce qu'on appelle les IMSI catchers, qui sont des espèces de boîtes que la police utilise pour intercepter toutes les communications qui ont lieu autour de la place, plus tous les
donc
moyens.
Donc vous avez imprimé des tracts qui permettent à chacun d'être sensibilisé à la sécurité personnelle.
De bien aussi voir qu'il y a des outils qui permettent, y compris sur smartphone, de protéger ses communications et de rendre la surveillance plus complexe. Donc il y avait un très gros enjeu à être présent sur la place. Ensuite, à plus large titre, la Quadrature a été présente aussi pour essayer de faire comprendre au mouvement qu'elle pouvait utiliser des moyens de communication décentralisés, des logiciels libres, pour pas s'en remettre à des outils propriétaires qui garantissent absolument pas la protection et la sécurité. Donc il y a tout un travail pour faire migrer les outils qu'utilisent les militants, les contestataires sur des
donc,
outils libres.
Donc utiliser Telegram au lieu de WhatsApp, par exemple, pour parler.
Utiliser WordPress pour un site internet, mettre ses images sur Wikimedia ou Wikipédia pour les stocker. Voilà, tout un ensemble de mesures. Et moi, j'y suis à un autre titre aussi du côté de Savoir Commun. Donc, on a monté une bibliothèque, sur la place.
Biblio debout.
Voilà. Organisée sur le principe du don. En fait, on a voulu la monter comme un commun. C'est-à-dire, mettre en place une bibliothèque qui n'appartienne à tous et à personne. Principe du don. C'est-à-dire, les gens nous donnent des livres et on permet aux gens d'en prendre. Et notre but, c'était de mettre en pratique nos idées sur la gestion d'un commun physique là et tout à fait matériel dans des conditions extrêmement précaires. Entre la pluie,
il fait froid,
le froid,
etc.
L'impossibilité d'installer des structures permanentes, la police et tout ce qu'on peut imaginer de ces mouvements-là. Donc c'était de le faire dans des conditions très précaires et de voir justement si ces modes de gestion horizontaux, partagés, pouvaient permettre de faire tenir cette ressource-là. On voulait qu'il y ait qu'il y ait la culture et les livres sur la place, participer au brassage des idées, et puis participer tout simplement à l'opposition contre la loi travail, et puis le faire dans un contexte d'état d'urgence qui le rend illégal, en fait, pour exercer nos libertés publiques malgré ces difficultés.
C'est étonnant parce qu'il y a une sorte de convergence des idées, puisque la BPI, la Bibliothèque publique d'information, qui est hébergée au centre Georges Pompidou, a organisé aussi une bibliothèque participative à l'occasion donc de ce festival Hors Piste. Et l'idée, c'est que chacun peut apporter un livre qui a changé sa vision du monde, qui l'a amené à militer, etc. Je crois que tu as apporté un livre avec toi, non ?
Oui, je suis venu, est juste à côté là, et je voulais faire un don à cette bibliothèque aussi.
C'est quoi comme livre ? C'est privé ?
Alors moi, non, c'est pas privé. Moi, le livre qui a le plus compté dans mes engagements, c'est « Conditions de l'homme moderne » d'Hannah Arendt. Clairement, c'est vraiment le livre, il y a très longtemps que j'ai lu, et qui a le plus façonné. C'est le livre dans lequel elle dit « Être libre et agir ne font qu'un ». Et pour moi, ça a toujours compté énormément dans mon implication. Donc c'est celui-là que j'ai voulu donner.
Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? Oui, madame.
J'ai juste une question qui est assez basique, c'est quels sont les dangers de la surveillance justement sur Internet ? Parce que je pense qu'on commence tous à comprendre qu'il faut passer par d'autres réseaux, mais quels sont nos risques en tant que citoyens, individus ?
Lionel.
Alors oui, c'est une bonne question, parce que souvent, quand on essaie nous d'alerter sur les dangers de la surveillance, on nous répond avec le fameux argument « mais oui, mais si je n'ai rien à cacher, pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter de la surveillance qui est déployée ?» Ce qui est un argument qu'il faut prendre en considération, hein, effectivement. Donc nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que... Et d'ailleurs, il y a des études qui viennent de sortir, qui l'ont confirmé aux États-Unis, où ce genre de situation est déjà implantée, c'est que le risque le plus grave, en fait, c'est celui d'une autocensure des individus. C'est-à-dire que si vous vous sentez en permanence surveillé par le gouvernement ou par des plateformes... type GAFA, dont vous savez qu'elle collecte en permanence vos données...
Donc
vous allez
GAFA, même... c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, tout à fait. Les géants du net...
Vous allez nécessairement, en fait, intégrer ce paramètre-là et ne pas vous exprimer comme vous auriez pu le faire si vous n'y avait pas cette surveillance de masse. Et ça a été confirmé par certaines études qui ont été faites aux États-Unis récemment, où on constate déjà une inflexion des comportements des individus en ligne qui ont conscience de la surveillance et qui se réadaptent en fonction. Ensuite aussi, si vous regardez bien, en fait... Est-ce que, quand on sait, par exemple, tout ce qu'on cache à ses proches familiaux, je pense qu'on a tous on verra tous des exemples. Imaginez, en fait, tout ce que vous cachez à vos proches, y compris dans votre famille très directe, et imaginez que tout ça, en fait, est lu en permanence, potentiellement, par des agents gouvernementaux, à tout moment. Et qui, pour l'instant, en fait, nous sommes dans un contexte qui est démocratique aussi. Mais imaginons que les choses changent et que les gouvernements, en fait, passent et tombent dans les mains aussi de forces politiques qui sont moins démocratiques. On n'imaginera pas le dégât énorme que ça pourra provoquer en termes de contrôle de la population, de répression de l'opposition.
Mais juste, c'est une question et peut-être une affirmation. Mais en fait, ça change par essence. C'est-à-dire que la démocratie est définie aussi par le fait qu'on a une part de vie privée. À partir du moment où elle saute, on n'est plus en démocratie par définition, non ? Enfin, c'est pas.
C'est d'ailleurs tout à fait ce que explique Hannah Arendt dans Conditions de l'homme moderne. Elle dit que la condition pour qu'il y ait un espace public pour la démocratie, c'est que les citoyens aient aussi un espace privé préservé et qu'ils puissent en fait sortir dans l'espace public pour exercer leur fonction de citoyen, mais qu'ils puissent aussi rentrer dans un vrai espace de protection d'intimité et que cet espace-là, en fait, c'est les régimes totalitaires en fait qu'ils détruisent. Les premiers à abattre cet espace-là, cette distinction-là, c'est les régimes totalitaires. Et petit à petit, on est quand même en train de basculer dans un contexte qui ressemble de plus en plus à une certaine forme de totalitarisme rampant.
Et là encore, c'est une histoire de définition. Un régime qui sait tout de vous est un régime totalitaire. Madame et monsieur.
Oui, je voudrais savoir si en réalité la nouveauté n'est pas uniquement liée et exclusivement liée au développement absolument considérable des connexions possibles. Parce que finalement, du renseignement, il y en a depuis le Moyen-Âge, il y a toujours eu des renseignements dans la police. C'est surtout cette possibilité de faire tant de recoupements. C'est plutôt cette question du contrôle de l'utilisation des données qui est en cause que l'existence de ces données elles-mêmes.
avant de prendre la question, mais pour reformuler la question de madame, est-ce que le meilleur étant le fait qu'on peut communiquer librement grâce à l'Internet, échanger, etc., enfin, toutes sortes de choses géniales avec Internet, n'arrive pas toujours d'une certaine manière avec le possible du pire et le pire? Et est-ce que, donc pour reprendre sa question, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu vain à vouloir lutter contre ce qui, de toute façon, arrive nécessairement avec ce monde?
Alors ça reprend un peu ce que dit Stigler sur le pharmacon, c'est-à-dire la technique est toujours à la fois poison et remède, et c'est vrai, hein, c'est-à-dire que le meilleur peut arriver comme le pire. Mais en fait, il y a des causes très claires hein, de ce qui nous a amené au pire. Et là, c'est là où il faut reprendre Lessig, ce qu'il disait sur Code et Law, et l'importance des protocoles de base. Par exemple, on n'aurait jamais pu arriver à ces échelles de centralisation aussi, enfin de contrôle aussi massif, si on n'avait pas abandonné la gestion de nos données à des plateformes centralisées comme Google, Apple et Facebook. C'est ça qui a permis aux États-Unis, en fait, d'arriver à une échelle de surveillance aussi massive. C'est la coopération entre les services de renseignement et ces grandes plateformes. On n'aurait jamais eu ces dérives-là si on s'était préoccupé d'utiliser des logiciels libres plutôt que des logiciels propriétaires qui ne nous permettent pas de savoir exactement en quoi consiste le code et ne nous permettent pas de voir s'il y a des failles de sécurité ou des portes dérobées qui vont pouvoir être utilisées notamment par les gouvernements. Donc il y avait des choses à faire, en fait, des réflexes à avoir sur l'infrastructure même des outils qu'on utilise. Mais à force de ne pas s'en être préoccupé, on a laissé les choses dériver à un point de concentration qui rend effectivement la situation aujourd'hui difficile à redétricoter, en fait.
Question.
Oui, puisque vous avez parlé de démocratie, je ne sais pas si la démocratie c'est la séparation des pouvoirs ou au contraire tout le pouvoir aux représentants de la population, mais ça ne se réduit certainement pas à une notion de contrôle par le juge du pouvoir. Les juges ne sont pas élus, la police non plus, mais enfin de toute façon il faudra au minimum une part de mandat à des représentants du peuple, que ce soit des gens partiellement tirés au sort ou comme ça se propose rue de la place de la République. Enfin, en tout cas, on ne peut pas parler de démocratie en se contentant d'en faire un duo entre le juge et l'exécutif. C'est pas la source de la démocratie, quand même.
Merci pour cette contribution. Lionel, un mot?
Les juges, c'est une garantie de la démocratie, mais c'est pas, on peut pas absorber toute la démocratie dans le juge. Hein. Nous, à la Quadrature du Net, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout de permettre aux citoyens d'être en capacité d'agir sur les processus de décision politique. On le fait en fait en faisant des analyses juridiques, en les vulgarisant le plus possible. Et quand on lance une action, on appelle ça une campagne. On fait jamais des textes tout prêts en disant aux gens « Envoyez-les à vos députés pour influer sur le processus ». On leur dit « Inspirez-vous de nos arguments et appelez vous-même vos députés pour les faire changer d'avis ». Et on a mis en place un outil qui s'appelle le Pifone, qui est un petit système de téléphone qui permet à chaque citoyen d'appeler son député gratuitement pour rentrer en communication avec lui et lui dire « Ben voilà, sur tel sujet, moi, je pense que vous devriez voter dans tel ou tel sens ». Et les plus belles victoires qu'on ait remportées, c'est grâce à ces outils-là, en donnant la possibilité aux gens de submerger à un moment donné les députés en leur disant « Ce sujet, il est important et voilà, on vous donne tel ou tel argument pour trancher dans tel ou tel sens ». Donc ça, nous, pour nous, c'est quand même un moyen d'éprouver la démocratie beaucoup plus directement et beaucoup plus activement que ce qui est proposé normalement.
Merci beaucoup pour ces précisions. On va se quitter avec des citations que tu as épinglées dans la présentation de ton blog. Tu peux les commenter, tu es invité à le faire. « Être libre et agir ne font qu'un », c'est Hannah Arendt, tu l'as déjà cité tout à l'heure. « Rien ne serait pire que d'abandonner le droit à ceux qui font profession de l'édicter », c'est de Pierre Dardot et Christian Laval.
Dans leur livre sur les communs, ils expliquent que il faut absolument que les gens qui gèrent des communs se réapproprient les règles juridiques et les mécanismes juridiques. Et ça, pour moi, ça a toujours été un des chevaux de bataille importants.
L'esprit s'arroge un peu partout des droits qu'il n'a pas. André Breton.
Oui, ça me fait beaucoup penser à la propriété intellectuelle qu'on essaie d'étendre à tout, en fait. Et parfois, il y a des choses qu'il faut accepter de ne pas posséder.
Tout ce que vous ferez est dérisoire, mais il est essentiel que vous le fassiez quand même. C'est Gandhi.
Oui, ça c'est ce que je me répète quand on enregistre des défaites, parfois à répétition, et en se disant qu'il fallait quand même le faire, parce que ça aura au moins contribué au débat et ça aura empêché que les choses peut-être soient pires.
Et on va conclure sur Bertolt Brecht, celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Merci Lionel Morel. On retrouvera sur l'atelier des médias la version longue de cet entretien, des liens vers ton blog, Silex et tes autres projets, Savoir commun, la quadrature du net. Pour nos auditeurs parisiennes, parisiens, le festival Hors Piste, c'est jusqu'au 8 mai. N'hésitez pas à venir déposer un livre qui a éveillé votre désir de changement, de révolte dans la bibliothèque participative. C'était l'atelier des médias RFI spécial festival Hors Piste, enregistré en public au niveau moins 1 du centre Georges Pompidou. Merci aux équipes du centre et de la BPI, en particulier Bernadette, Vincent et Sylvère Mercier. Merci à Lionel aux manettes, Nicolas à la lumière. Merci à Simon, mon complice, qui a géré la prise de son aujourd'hui. L'atelier est un projet porté par Camille Deloche, Manon Mella, Mathias Virilli, Simon De Creuse et moi-même, Ziad Malouf. Pour nous soutenir, rien de plus simple, abonnez-vous à notre podcast sur iTunes ou sur toute autre plateforme de podcast audio. Partagez, tweetez les productions qui vous ont plu, comme cet entretien avec Lionel Morel. Merci Lionel, merci au public du centre. Salut à toutes et à tous.